France Culture.
Réplique, Sartre et Aron, avec Perrine Simon-Naoum et Frédéric Worms. Sartre et Aron sont nés la même année, 1905. Ils ont été très proches pendant leurs études à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Après la guerre, leurs routes se sont séparées. La politique a eu raison du lien qui les unissait et de leurs conversations interminables. L'un a incarné la radicalité et l'espérance révolutionnaire, l'autre la modération et le pessimisme libéral. Quand j'étais jeune, on préférait, selon la célèbre formule de Jean Daniel, avoir tort avec Sartre plutôt qu'avoir raison avec Aron. Les temps ont changé, les boomers ont vieilli. Après l'effondrement du communisme, Aron a pris sa revanche sur Sartre. Mais leurs différends méritent d'autant plus d'être revisités que, comme en témoigne la radicalité qui prévaut dans un grand nombre d'universités du monde occidental, Sartre n'a peut-être pas dit son dernier mot. Aussi faut-il se féliciter de la parution, sous le titre « Aron, critique de Sartre », des textes que le spectateur engagé a écrits sur l'ancien petit camarade avec lequel il n'a jamais cessé de vouloir dialoguer. J'ai donc invité ce matin Perrine Simon-Naoum, qui commande ses textes dans une préface très éclairante, et Frédéric Worms, bien connu des auditeurs de France Culture. Vous êtes tous deux professeurs de philosophie, ce qui m'autorise à vous demander l'impossible. Résumez l'argument du livre touffu et difficile de Sartre, qui est au cœur de la Grande Querelle, La critique de la raison dialectique. Perrine Simon-Naoum.
Tâche très difficile, effectivement. Raymond Aron parlait de ce livre en disant que c'était un livre baroque, ce qui était une autre façon de dire que c'était un livre touffu et difficile. Et on sait qu'il en a fait plusieurs lectures et qu'il y a même consacré un an de séminaire. Donc, en quelques secondes, évidemment, comment le résumer ? Je partirai de la situation du marxisme, puisque c'est l'un des points sur lesquels Sartre s'appuie. Le marxisme, à l'époque, peut se diviser, je dirais, en trois types. Il y a un marxisme kantien dans les années 50, au moment où Sartre élabore cette critique de la raison dialectique qui va paraître en 1960. Un marxisme kantien qui fixe, je dirais, un horizon moral socialiste. Il y a d'autre part un marxisme hegelianisé, plus philosophique, qui réintroduit le thème de la dialectique et de ce que Hegel appelait la dialectique de la nature. Et puis il y a le marxisme positiviste avec lequel les marxistes hétérodoxes, dont Sartre et Merleau-Ponty, dont il faudra parler, avec lequel ils ont beaucoup de mal car c'est un marxisme dogmatique. Or, il faut savoir qu'à l'époque, le marxisme n'est plus seulement une théorie philosophique, mais c'est aussi une expérience politique réelle, celle de l'Union soviétique. Donc Sartre se trouve dans la nécessité de discuter ce marxisme, à la fois d'un point de vue philosophique et du point de vue de l'expérience historique. Il va mettre au cœur de sa discussion la dialectique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Sartre s'intéresse au marxisme dans le cadre d'un mouvement interne à sa philosophie. Dans sa thèse « L'être et le néant » parue en 1943, il avait discuté de l'individu et il avait posé la liberté absolue radicale de l'individu. Et tout son effort à la suite cette thèse va être d'inscrire l'homme dans le concret. Et d'ailleurs, le premier titre qu'il avait donné à Critique de la raison dialectique, c'est « De l'homme ». Donc il veut refonder une anthropologie. mais il veut le faire de manière à inscrire l'homme dans ce qui lui paraît être le mouvement juste de l'histoire, c'est-à-dire cette victoire du prolétariat, cette philosophie séculière posée par le marxisme. Il va donc se livrer, je dirais, à une stratégie, à une opération philosophique, et c'est cette opération philosophique que Aron va démonter, parce qu'il y est opposé, en mettant la dialectique au centre de son analyse, en expliquant, en posant l'existence d'une raison dialectique.
C'est quoi la dialectique raison... Qu'est-ce que ça veut dire la dialectique?
La dialectique, c'est la dynamique qui se dégage d'un mouvement des contraires,
ah oui, c'est
c'est-à-dire d'un positif auquel s'affronte une négativité. Or, l'opération qui va être réalisée par Sartre est d'inscrire cette dialectique au sein de la conscience individuelle, là où Marx l'inscrivait dans l'histoire. Et donc ce mouvement va le conduire à dégager ce que Aron appelle une contre-dialectique, au moment où le sujet, qui est encore une fois une liberté radicale absolue, s'affirme dans le monde, il rencontre l'opacité du monde, il rencontre ce que Sartre appelle la rareté, et il en prend en quelque sorte, il en prend possession dans le mouvement que Sartre défini comme le pratico-inerte. C'est ce pratico-inerte qui, à la fois, s'oppose à l'individu comme négativité, mais lui permet de triompher dans le même mouvement, toujours pour affirmer sa liberté à travers l'action, à travers la praxis.
Très bien. Oui, donc, vous avez bien situé la pensée de Sartre, les enjeux de cette pensée. Avec Frédéric Zorz, je voudrais, puisque ça s'appelle, c'est la théorie des ensembles pratiques. Que sont les ensembles pratiques? Je voudrais le savoir, c'est-à-dire la série, le groupe infusion, l'institution, l'organisation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces concepts centraux de Sartre, Frédéric Zorz?
Oui, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être dans cette discussion. J'avoue qu'à la faveur de la réédition par Perrine Simon-Naoum de ce grand livre de Aron, Histoire et dialectique de la violence, on retrouve l'importance des enjeux que vous venez de résumer. Et je voudrais revenir d'un mot d'abord sur l'enjeu général et puis après sur les notions que vous venez d'évoquer. Comme Perrine l'a dit, finalement, le but de la critique de la raison dialectique que Sartre publie en 1960 est contenu dans son titre. C'est un peu comme la critique de la raison pure de Kant, c'est-à-dire une raison qui oublie ses limites et qui oublie son présupposé qui est en effet, dans le cas de la raison scientifique en général et de la science de l'histoire que prétend être le marxisme, d'oublier qu'elle est limitée par le fait qu'elle est liée à une subjectivité. Kant avait montré que les limites de la raison, c'est la subjectivité humaine, l'expérience sensible, elle ne peut pas aller au-delà de l'expérience sensible d'un sujet. Et la raison de la science de l'histoire supposée du marxisme a oublié qu'elle ne peut pas se faire sans une subjectivité. Elle se prétend objective, elle prétend donner des lois de l'histoire, et c'est là qu'elle se trompe. Mais ce que montre Aron, c'est que Sartre essaye, en repartant du sujet, de retrouver l'histoire et de la fonder sur des limites, contre un marxisme supposé objectif, mais quand même contre une subjectivité coupée de l'histoire. Et le titre de Aron, il faut en dire un mot peut-être avant de revenir sur la question que vous posez, Alain Finkielkraut, le titre de Aron est très clair, Histoire et dialectique de la violence. C'est pour dire en un certain sens que Sartre échoue à construire une dialectique qui dépasse la violence, que l'opposition du sujet et de l'histoire, l'opposition des sujets humains entre eux, ce qui fait de l'histoire une source de violence, ne sera pas dépassée dans le livre de Sartre. L'opposition, la négativité, l'être et le néant, la liberté qui s'oppose au monde, les libertés qui s'opposent entre elles, on espère que l'histoire va dépasser cette négativité. Eh bien, en fait, Aron montre que cette négativité est la leçon de l'histoire chez Sartre, que la violence, il n'arrive pas à la contenir, à la dépasser, même si il entre dans la subjectivité, il ne réduit pas l'histoire à un écrasement de la subjectivité. Et donc, dans cette construction d'une histoire à partir de la subjectivité individuelle, le génie de Aron, c'est d'avoir, enfin, on y reviendra dans la conclusion, il dit que Sartre a justifié l'individualisme méthodologique, c'est le point de vue subjectif individuel. Aron montre comment Sartre a construit l'histoire à partir de l'individu, en construisant peu à peu l'humanité à travers des étapes qui sont des groupes encore externes, la concurrence externe des individus, puis une sorte de fusion collective dans des événements historiques qui constituent des groupes, des collectivités unifiées par un but commun, un but historique commun, une conscience historique, c'est ça leur sujet commun. Et puis ensuite arriverait l'humanité, mais en fait, on n'y arrive jamais. Mais donc, ces notions que vous évoquez, les ensembles pratico-inertes, ce sont des collectifs encore séparés, puis des groupes. C'est la façon dont Sartre, dans la relation entre l'individu et les autres, entre l'individu et le monde, voit se constituer la société, finalement. Et Aron, qui est passé du côté de la sociologie, est quand même intéressé par cette constitution progressive du social entre l'individu et l'histoire.
Oui, alors, la forme collective première, si l'on peut dire, chez Sartre, dans Critique de la raison dialectique, c'est la série. La série, d'ailleurs, il la voit se manifester dans la foule qui attend l'autobus en bas de chez lui à Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire, là, les hommes, dans ce rassemblement d'hommes, chacun est seul parce qu'il est interchangeable avec tous les autres. Et donc, il y a une indifférence de chacun pour tous. Je ne parle pas aux autres, je ne fais qu'attendre comme eux. Et le dépassement de la série, justement, maudite, se fait chez Sartre dans le groupe en fusion. Et là, je cite un commentaire de Sartre par Alain Badiou. Dans la série, l'autre est partout. Dans le groupe en fusion, le même est partout. On est tous les mêmes parce que on affronte un ennemi commun. Donc, c'est le combat qui unit les consciences. Et face à cet ennemi, donc, la série est dépassée. Malheureusement, et c'est là effectivement qu'il y a une sorte de mélancolie chez Sartre, on a raison de se révolter, mais après le groupe en fusion, vient peu à peu l'organisation, l'institution, qui sont un retour, en quelque sorte, presque inévitable, aux pratico-inertes. Et Sartre n'arrive pas à sortir de cette situation, en quelque sorte. Et Badiou, d'ailleurs, cite une maxime bien connue dans un article qu'il a écrit sur Sartre. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. Et en effet, c'est un peu la leçon qu'on peut tirer de Critique de la raison dialectique, mais évidemment, entre-temps, Sartre, et c'est ça le point essentiel de la critique d'Aron, a fait l'éloge de la violence. Il a même eu cette phrase que je vais retrouver. « Sartre me paraît le premier philosophe qui, en Occident, ait admiré sans réserve la foule révolutionnaire, la tête du gouverneur d'une prison presque désaffectée au bout d'une pique, le premier qui ait salué dans le groupe en fusion l'accès de l'individu à l'authentique humanité. » Parce que le modèle du groupe en fusion pour Sartre, c'est la prise de la Bastille. Perrine Simon-Naoum.
Oui, en fait, l'une des critiques fondamentales que Aron va formuler à l'égard du livre de Sartre et de sa philosophie en général, c'est d'une certaine façon, et ça paraît paradoxal, d'être plus pessimiste historiquement que Marx. À savoir que Marx mettait à l'horizon de l'histoire la victoire du prolétariat. Ce que Aron montre, c'est qu'en réalité, Sartre échoue comme je l'ai dit, à passer de la conscience individuelle à l'ensemble d'un groupe collectif ou d'un groupe social qui serait acteur de l'histoire, mais qui serait aussi acteur de l'histoire dans le sens d'une émancipation ou de la victoire supposée du prolétariat. Et donc, ce que montre Aron, c'est que non seulement la philosophie de Sartre, la dernière philosophie de Sartre, appelle la violence, mais qu'en plus, elle la légitime, ce qui, pour lui, va à l'encontre de ce qu'est la vocation de la philosophie. Et on le voit très bien à travers les citations que vous avez rappelées. L'idée chez Sartre, c'est à la fois que l'individu est radicalement libre, mais qu'il est interchangeable. Et à cette interchangeabilité, je dirais sartrienne, on pourrait opposer la singularité d'Aron ou la singularité d'une autre philosophe que vous aimez beaucoup, Hannah Arendt, à savoir le fait que l'individu ne peut jamais être sacrifié, et encore moins au nom d'un horizon hypothétique de l'histoire.
Frédéric Worms.
Il est clair que il y a deux dimensions dans le texte de Sartre et que l'une d'entre elles vient à écraser l'autre selon l'analyse de Aron que je trouve très profonde et très importante. Il y a une logique qui est de comprendre l'histoire, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre comment l'individu, la liberté ne se réalise pas toute seule, mais avec les autres et face à des situations collectives. C'est ça la grande nouveauté par rapport à l'être et le néant, où l'individu devait réaliser sa liberté comme projet individuel. Dans la critique de la raison dialectique, après 20 ans d'engagement politique, Sartre essaye de dire la liberté, elle se réalise aussi, d'abord collectivement, humainement, historiquement. Mais il y a une autre logique, qui est que la liberté se réalise contre quelque chose, contre la violence. Et effectivement, on a l'impression que la logique de la construction du projet historique qui doit totaliser toute l'humanité dans le refus de la violence en général, oublie sa propre origine dans cette question du refus de l'oppression, de la violence concrète à tout instant. Et donc la visée d'une sortie de la violence par l'humanité tout entière, ce passage de l'individu à la totalité, qui est le grand écart sartrien finalement, il est passé d'un extrême à l'autre, et Aron l'a montré très bien, oublie que son principe au fond quand même moral en droit, c'est-à-dire du refus de la violence, de la réalisation d'une société juste, doit se réaliser aussi à chaque instant. Donc ce critère de la critique disparaît en cours de route dans la construction d'une totalité humaine à partir des libertés, et je crois que ce risque, Aron l'a très bien montré. Et par ailleurs, je voudrais souligner aussi la précision de son analyse, parce que dans son livre que Perrine Simon-Naoum vient de rééditer, il y a deux mouvements, il y a six chapitres. Dans les trois premiers chapitres, il suit la critique de la raison dialectique. Puis dans les trois autres, il procède par tranches, il fait des coupes, il analyse trois concepts, l'histoire, les groupes, d'abord les groupes d'ailleurs, l'histoire et la violence. Et je trouve cette analyse très forte parce que Aron, en tant que sociologue, était quand même intéressé, autant il critique l'aveuglement de Sartre sur une finalité absolue qui écrase les critères moraux au passage, autant... Il pense qu'il va chercher quelque chose dans cette conscience historique collective dont il trouve des analyses intéressantes, mais fausses dans leur visée, mais intéressantes dans leur résultat, au passage, en quelque sorte. La profondeur sartrienne étant utilisable par le sociologue sur le groupe, l'histoire... Ouais. Et la violence qu'il faut critiquer.
Oui, mais justement, quand même, ce que Raymond reproche à Sartre, c'est de placer la violence au cœur de sa réflexion, de sa dialectique, si vous voulez. Notamment le groupe en fusion. Aron écrit que le groupe initial, donc c'est le groupe de combat. Action, violence, combat, ces termes, pour n'être pas interchangeables, s'appellent, me semble-t-il, irrésistiblement l'un l'autre. L'action commune, surgit en réponse à une menace ressentie. Donc la violence est là, tout de suite. Et d'ailleurs, elle se prolonge ensuite, quand le groupe essaye de se solidifier avec ce que Sartre appelle la fraternité terreur, c'est-à-dire la terreur, c'est on cherche à ne pas trahir le groupe et on cherche aussi à punir les traîtres. Mais alors ce mot de fraternité m'amène peut-être à revenir à Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt, en effet, a cette phrase à la fois très banale et incroyablement profonde. Ce n'est pas l'homme qui peuple la terre, ce sont les hommes dans leur pluralité infinie. Vous disiez, Perrine Simon-Naoum, que le titre originel de Critique de la Sensibilité, c'était de l'homme. Le titre de La condition de l'homme moderne, ça pourrait être des hommes. Et c'est très important parce que l'idée que Hannah Arendt se fait de la politique est tout entière fondée sur la pluralité. La pluralité humaine qui s'épanouit dans la démocratie, et notamment dans la démocratie des anciens. Or, on a l'impression que, pour Sartre, l'essentiel consiste justement à surmonter la pluralité. Il voit la pluralité dans la série. Et on surmonte la pluralité dans la fraternité. Et là, je vois une opposition très forte entre Hannah Arendt, qui, fidèle aux leçons d'Aristote, fait de l'amitié une vertu politique, une vertu civique, et Sartre, que l'amitié n'intéresse pas dans la vie et a fortiori dans la philosophie, qui a les yeux braqués, si j'ose dire, sur la fraternité qui reste l'espoir de l'humanité. Même d'ailleurs, dans le livre d'entretien avec Benny Lévy, que l'espoir maintenant, son livre ultime, que Aron traite avec une certaine condescendance, où Sartre dit qu'il en finit avec la fraternité terreur, donc il découpe la fraternité de la terreur, mais la fraternité reste l'horizon de l'espoir. L'homme ne peut échapper à la solitude que dans la fraternité. Et pas de place pour autre chose, pas de place pour la pluralité. Mais Perrine Simon-Naoum.
Oui, pas de place pour la fraternité, pas de place pour l'intersubjectivité. Je voudrais revenir juste, et comme l'émission s'appelle Polémique, il faut bien qu'il y en ait un peu entre nous, sur ce que disait Frédéric Worms. Je ne lis pas tout à fait l'ouvrage d'Aron de la même façon que lui. En tout cas, j'aurais une interprétation un peu différente des derniers chapitres. Je ne crois pas que Aron accorde quoi que ce soit à Sartre, si ce n'est l'intérêt du dialogue, mais justement le dialogue est ce qui lui permet de mettre à l'épreuve sa propre philosophie de l'histoire. Et je crois que c'est pour ça que dans les années 70, donc ce cours qu'il fait et cette publication en 1973 d'un livre de philosophie pure au milieu d'une œuvre qui est une œuvre consacrée à, Frédéric l'a rappelé, l'analyse sociologique et politique de son temps, ça n'est pas pour rien que Aron revient ici à la philosophie pure et j'y verrai, je dirais, le troisième volet de sa thèse initiale, Introduction à la philosophie de l'histoire, puis du recueil Dimensions de la conscience historique, et enfin Histoire et dialectique de la violence, qui pose la question de la philosophie et de la conscience historique de l'individu. Et c'est pour ça que vraiment je dois beaucoup de gratitude à Dominique Schnapper qui m'a permis de rééditer ce livre, car ce livre est en pleine actualité aujourd'hui. Qu'est-ce que Aron critique chez Sartre ? En fait, il critique le passage de la philosophie à l'idéologie. Et ce qu'il montre, c'est que dans sa justification, dans sa légitimation de la violence, Sartre consent aussi à passer de la philosophie à l'idéologie. Qu'est-ce que dit Aron quand il met à l'épreuve sa propre pensée de l'histoire ? Eh bien, il revisite les deux principes qui étaient les siens et qu'on doit toujours se rappeler aujourd'hui, vous parliez, cher Alain Finkielkraut, de radicalité actuelle, à savoir qu'il n'y a pas une seule causalité dans l'histoire. Nous ne pouvons pas analyser l'environnement qui est le nôtre sous la catégorie d'un monisme causal. Il y a une pluralité de causes. Et face à cette pluralité de causes, et c'est ce qui fait, aux yeux d'Aron, le tragique de l'histoire, mais c'est aussi ce que ressent très bien Hannah Arendt, il y a une pluralité des valeurs. Et donc, c'est pour ça que, finalement, Aron va toujours mettre en regard la réflexion de Marx et une forme de pessimisme tragique qu'il aura trouvé chez Max Weber.
Alors, justement, je voudrais savoir, Frédéric Mzans, si vous êtes d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire, y a-t-il une actualité de ce débat ? Perrine Simon-Naoum vient de parler des dangers du passage de la philosophie à l'idéologie et du monisme causal. Est-ce qu'avec ce qu'on appelle le wokisme, on ne retrouve pas un certain monisme ? C'est-à-dire, il y a certes le concept d'exploitation est remplacé par celui de domination. Il y a toutes sortes de minorités dominées dans cette vision du monde, mais à travers le concept d'intersectionnalité, elles se retrouvent toutes ensemble pour combattre le même ennemi. Le même ennemi, c'est-à-dire l'homme blanc occidental, avec une certaine radicalité, on le voit, la cancel culture, etc., etc. Donc, est-ce que la leçon d'Aron, de ce point de vue-là, vous paraît valable aujourd'hui pour ce qui se passe, notamment, comme je le disais en commençant, dans les universités du monde occidental. Frédéric Worms.
Oui, je voudrais revenir d'abord un instant, avant de venir à la question suivante, à la question à laquelle répondait Perrine Simon-Naoum et que vous aviez posée en évoquant aussi Hannah Arendt. Il est vrai, et Aron a vraiment raison de le souligner, que Sartre n'est pas sorti dans la relation entre les humains de la violence. Jamais. Dans l'être et le néant, c'est fondé sur la rencontre entre des libertés individuelles qui sont également radicales et qui font que ma liberté fait de l'autre un objet que je veux réduire et en même temps, je veux l'autre a le même droit sur moi et il y a un conflit radical des libertés dans le pour autrui chez Sartre en 1943, auquel Lévinas répondra par un autrui éthique et non pas en guerre avec moi. Et le débat vers le marxisme, c'est aussi, et c'est ça pour moi l'actualité principale aujourd'hui, avant de revenir à la question que vous posiez, dans la critique de la raison dialectique, comme Sartre doit justifier désormais l'histoire de façon matérielle et non plus seulement existentielle. Il cherche un principe matériel qui va être le principe de l'économie, d'une raison dialectique matérialiste. Il se force en quelque sorte, Aron le montre bien, mais il découvre la vie. La rareté vitale, le besoin, c'est au début de la critique de la raison dialectique et Aron l'étudie avec une grande rigueur. Vraiment, c'est un très grand livre, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Perrine, Simon-Naoum. Et il découvre la rareté, mais la rareté comme principe de la guerre. Et donc finalement, il y a deux principes de guerre entre les humains, les libertés qui s'affrontent et la violence économique au nom de la rareté, la guerre de tous contre tous dans un état de nature qui se reproduit ensuite entre les nations. Et finalement, on ne dépasse jamais cette conception de l'altérité comme violence. Du coup, effectivement, sauf dans la totalité espérée. Et entre les deux, il n'y a pas cette reconnaissance mutuelle positive qu'on trouve chez Hannah Arendt sous le signe, il me semble, du refus commun de l'oppression. C'est-à-dire qu'il faut créer un espace politique qui permette aux libertés individuelles de se reconnaître sans se faire la guerre, en assumant le risque de la violence, le risque de la guerre. Et la politique écarte justement l'économique, chez Hannah Arendt. Elle écarte le besoin, elle a besoin d'une certaine sécurité économique. Donc il y a d'abord la vie pratique. Et puis une fois qu'on a dégagé cet espace de la conversation, qu'on a protégé cet espace public où l'altérité peut devenir confrontation, transformation du conflit en dialogue démocratique, en dialogue humain, en imprévisibilité, en création et pas en réflexe mécanique de violence, là on est dans la politique. Mais Hannah Arendt avait bien compris, comme vous le savez l'un et l'autre, que cette politique a des conditions. Il faut sortir de la guerre économique, sortir du besoin. Et Hannah Arendt et Raymond Aron ont bien compris que finalement cette guerre économique peut exister, elle est un danger. Aujourd'hui, dans le vivant, ce que j'appelle moi le moment du vivant, on a des dangers concrets communs très graves, de nouveau des compétitions économiques, des catastrophes possibles qui font que la guerre de tous contre tous peut redevenir possible. comment reconstruire le politique quand justement on doit écarter cette violence conflictuelle que Sartre a décrite sans trouver la clé pour en sortir, parce qu'en fait, pour moi, sa grande erreur, c'est d'avoir fait sortir la violence de la liberté, alors qu'il faut faire sortir la conscience de la liberté de l'expérience de la violence. C'est vraiment l'inverse. Mmh. C'est la violence d'autrui qui doit nous faire ressentir l'urgence d'une institution de la liberté, et non pas des libertés absolues qui vont ensuite engendrer la violence. Donc c'est vraiment pour moi la grande alternative philosophique. Est-ce que la violence sort de la liberté, ou la liberté sort de l'expérience de la violence? Moi, évidemment, je suis du deuxième côté. Et de ce point de vue, je pense que la seule réponse aujourd'hui aux conflits qui reviennent, à l'idéologisation du monde, c'est en effet des institutions où l'on peut, dans des cadres communs stricts, et forcément respectés, transcrire les urgences du moment en débat argumenté, rationnel, raisonnable, en sachant que la violence menace. Aaron n'était pas naïf, et Arendt non plus. Il savait bien que cet espace public est fragile, qu'aujourd'hui il faut le protéger, que ça vaut pour les institutions universitaires et démocratiques en général. Donc moi, je pense vraiment que ce débat est toujours actuel, parce que l'expérience de la liberté, pour moi, ne peut être qu'une aspiration seconde par rapport aux dangers communs qu'on affronte et qui sont en effet la guerre et la violence sous toutes ses formes. Donc voilà pourquoi ce débat est toujours important, et pourquoi Aaron s'est senti obligé de prendre au sérieux la philosophie fondamentale de Sartre sur ce point.
Ah, vous parlez des institutions qui doivent accueillir le dialogue, Frédéric Worms. Pour Sartre, l'institution, c'est un peu le commencement de la fin, la retombée dans le pratico-inerte, dans l'être et le néant. Il dit « l'homme est une passion inutile ». La révolte n'est pas forcément une passion inutile, mais il n'empêche qu'elle s'ensable, elle s'enlise presque toujours pour Sartre. Et peut-être faudrait-il organiser à l'École normale supérieure, sous votre égide, Frédéric Mzans, et sous l'égide de Perrine Simon-Naoum, un grand débat sur le wokisme et l'anti-wokisme. Je pourrais déjà vous donner le nom des participants. Mais là, j'en reviens à Aaron face à Sartre et à leur grande différence. Dans ses mémoires, Raymond Aaron écrit que, en 1932, après le retour d'Édouard Herriot au Quai d'Orsay, il a prononcé une conférence devant un sous-secrétaire aux affaires étrangères, Joseph Pagasson, sur l'évolution de la politique allemande. Et alors, il est normalien, c'est une conférence très brillante, et le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Joseph Pagasson dispose d'une autorité exceptionnelle, c'est un homme hors du commun, etc. Mais vous, qui m'avez si bien parlé de l'Allemagne et des périls qui soulèvent à l'horizon, que feriez-vous si vous étiez à sa place? Et Raymond Aaron n'a jamais oublié cette leçon. Dans tous ses articles, parce qu'il a été un grand journaliste et un grand professeur, métier qui s'accorde généralement assez mal, il s'est posé la question « Que ferais-je à sa place ?» Et cette question, pour Sartre, n'a aucun sens. Et ça me fait penser à une magnifique maxime de Nicolas Gomez d'Avila. L'intellectuel n'oppose pas à l'homme d'État l'intégrité de l'esprit, mais le radicalisme de l'inexpérience. Et là, oui, l'intégrité de l'esprit, de ce point de vue, elle est du côté de Raymond Aron, qui se met à la place, mais Sartre ne peut pas se mettre à la place. On le voit encore dans ses entretiens avec Béni Lévy, parce que la droite est il faut reconstruire la gauche, et la droite est misérable, et être de droite, c'est être un salaud, dit encore Sartre à ce moment-là. Donc, on ne se met pas à la place des gens de droite. Et on en revient à la division fondamentale du monde, au règne du chiffre 2, les opprimés et les oppresseurs. Donc, sous le règne de l'inégalité, qui est une autre façon de dire la rareté. La rareté, c'est quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Voilà. Mais donc, Sartre n'est jamais complètement sorti de ce schéma, alors que on peut dire que la vertu de Raymond Aron, c'est d'avoir su se mettre à la place des politiques quand ils discutaient politique. Perrine Simon-Naoum.
Alors, Sartre n'a jamais voulu se mettre à la place, et là encore c'est très paradoxal, mais pourquoi ? Parce que Sartre est un écrivain, Sartre est un artiste. Et c'est ce que Aron souligne dans certains des passages des passages assez inhabituels, je dirais, dans sa manière d'analyser les choses, dans sa critique de la raison dialectique. Il montre finalement, et il accorde à Sartre, le fait d'être un artiste. Quand Frédéric Worms rappelait que Sartre rappelle l'importance des réalités matérielles, Aron montre en même temps qu'il n'y a jamais évoqué dans la critique de la raison dialectique un fait concret, une situation concrète, qu'elle soit économique ou sociale. Or, Aron, vous le rappelez, a été très marqué par cette remarque du conseiller du ministre des Affaires étrangères. Non pas qu'il ait cherché par la suite à se mettre à la place des dirigeants politiques, il est plutôt resté ce qu'on appellerait le conseiller du prince, et je renvoie à sa très belle préface d'une conférence de Max Weber, Le savant et le politique, dans lequel il montre justement que ce que doit faire le philosophe, c'est essayer de se situer, de comprendre l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire que comprendre l'histoire ? C'est se mettre comme individu, finalement, au croisement de la déterminité, du déterminisme économique et social que nous connaissons tous, et du choix, de la décision. Aron n'a jamais cessé, en fait, de valoriser l'individu, c'est-à-dire de montrer à ses contemporains que l'histoire était quelque chose de difficile, que c'était quelque chose qu'il fallait chercher à appréhender, et qu'on était toujours pris entre la déterminité et la liberté. Mais que la force de la déterminité ne devait jamais l'emporter sur la liberté. Or, les critiques que vous pouvez faire au wokisme, et que je partage en partie, notamment dans cette manière d'essentialiser le colonialisme, d'essentialiser la femme qui est forcément victime alors que l'homme est prédateur, eh bien, c'est aussi une manière de retirer les individus de l'histoire, c'est-à-dire de leur expliquer qu'ils sont régis par un déterminisme, qu'il soit historique, qu'il soit économique, qu'il soit genré, qu'il soit social, et finalement qu'ils ne sont jamais que des victimes et pas les acteurs de leur propre histoire.
Oui, et alors, la critique, ça peut être aussi contre une pensée qui voit la domination partout. Et là, je pense à un moment particulièrement pénible de la relation Sartre-Aron, c'est 68. Et un article du Nouvel Observateur où Sartre critique l'enseignement de Aron. Quand Aron, vieillissant, répète indéfiniment à ses étudiants les idées de sa thèse, écrite avant la guerre de 1939, sans que ceux qui l'écoutent puissent exercer sur lui le moindre contrôle critique, il exerce un pouvoir réel, mais qui n'est certainement pas fondé sans un savoir digne de ce nom. Voilà. Et on ne doit plus considérer comme Aron que penser seul derrière son bureau représente l'exercice de l'intelligence. Et il faut que chaque enseignant accepte d'être jugé et contesté par ceux auxquels il enseigne, qu'il se dise « il me voit tout nu ». Il faut que Aron accepte qu'on le voit tout nu. Et vous citiez Lévinas, Frédéric Worms, tout à l'heure, et Lévinas dit, au contraire d'une certaine idéologie 68arde qui rabattait l'autorité sur la domination, l'école, c'est là que s'affirme l'extériorité qui accomplit la liberté au lieu de la blesser, l'extériorité du maître. Voilà effectivement ce que Sartre se refuse à penser, et c'est la signification qu'on peut donner à cette critique de Raymond Aron. Alors, qu'en pensez-vous, Frédéric Worms ? Mais je voudrais ajouter tout de suite une autre question qui est importante pour moi. Sartre a-t-il compté pour vous ? Le lisez-vous toujours ? Sa radicalité politique suffit-elle à résumer sa pensée ? Voilà plusieurs questions en une seule intervention. Excusez-moi, Frédéric Worms.
Non, au contraire, je vous en prie, je vais essayer de répondre aux deux d'un coup, parce que justement, elles sont liées. Je commencerai par la réponse de Aron à Sartre dans Histoire et dialectique de la violence, qui est donc de 73, hein, qui est après mai 68, et qui est géniale parce qu'elle est génialement sartrienne dans son ironie aussi très très forte de Raymond Aron. Au début du sixième chapitre, donc de la liberté à la violence, il dit « Nombre de mes amis s'étonnent que je poursuive un dialogue avec un interlocuteur qui, lui, refuse les dialogues. Les injures qu'il me réserve de temps à autre ne respectent certainement pas la règle de réciprocité, règle éthique la plus haute, posée dans la critique, etc. etc. Ces conseils ne me découragent pas. À la différence de ceux qui m'entourent, j'ai conservé mon admiration de jeunesse pour l'extraordinaire fertilité de son esprit. Et je l'accepte tel qu'il est, même dans sa violence et dans sa démesure. » Alors, quelle est la profondeur de Aron ici ? C'est que au fond, il partage encore avec son ami de jeunesse un problème commun qui, à mon avis, définit le moment de l'existentialisme, le moment de l'existence, c'est-à-dire que chaque individu, dans l'histoire, choisit librement ses valeurs. C'est ce que Max Weber aussi appelait ses dieux, la guerre des dieux. Les individus sont pas des sujets vides, ils choisissent un ensemble de valeurs. C'est la sociologie des valeurs, l'individualisme compréhensif, l'individualisme méthodologique, du sens que chacun donne à sa vie. Et Aron, de manière très claire, a compris que Sartre reste l'homme des choix radicaux de chacun, étanche, ce qu'il lui reproche. Mais du coup, il lui retourne cette étanchéité et il lui dit, voilà, vous avez choisi la violence. Moi, j'ai choisi l'institution politique, de me mettre en effet aussi à la place de l'institution politique et pas seulement d'une sorte de choix radical et toujours repris à neuf, toujours vierge, jamais touché par ses propres actions, jamais responsable de ses effets. C'est ce que Merleau-Ponty et Sartre ont toujours, et Aron, pardon, ont toujours reproché à Jean-Paul Sartre. Donc il lui dit au fond, vous avez choisi ce geste éthique. Mon existentialisme à moi, c'est d'avoir choisi profondément un projet d'institution de la liberté, effectivement, dans des cadres communs, contre la violence et sans espoir de l'abolir jamais. Parce que c'est toujours pour abolir la violence qu'on est le plus violent. En acceptant sa réalité, en la circonscrivant, on est au fond dans ce dilemme du savant et du politique et on assume un intermédiaire. Alors, au fond, Aron ici décrit aussi la profondeur, en effet, philosophique et littéraire de Sartre. C'est que Sartre est très très fort pour décrire des choix profonds. Et il n'arrive jamais réellement à les condamner, sauf à un moment. Et c'est là que, Alain Finkielkraut, je voulais répondre à votre deuxième question plus personnelle. C'est qu'on a l'impression qu'en effet, tous les choix se valent. Vous vous souvenez, dans L'existentialisme est un humanisme, Sartre raconte qu'un jeune homme vient le voir et il hésite entre s'engager dans la résistance ou pas. Et Sartre lui dit « Quoi que vous fassiez, vous choisirez pour toute l'humanité, vous serez un salaud ou un héros, mais c'est votre choix. » Il ne lui donne pas, on a l'impression qu'il est neutre. Et puis arrive, juste après la guerre, pour moi, il y a un tout petit intervalle où Sartre devient vraiment moraliste, frôle une philosophie morale et politique. Et c'est notamment dans les réflexions sur la question juive et dans les textes aussi, la préface à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Saint-Goar, où là, Sartre condamne l'antisémite dans ce portrait d'un antisémite qu'on lui a beaucoup reproché. Pourquoi ? Parce que là aussi, il décrit l'antisémitisme comme un choix profond d'un sujet. Vous n'arriverez pas à convaincre l'antisémite, il a choisi de l'être, c'est sa liberté. Mais seulement, cette liberté de l'antisémite, elle est meurtrière. Et Sartre refuse de considérer l'antisémitisme comme une opinion. Il dit « ce mot d'opinion fait rêver ». C'est celui qu'emploie la maîtresse de maison pour mettre fin à une discussion qui risque de s'envenimer. « Je me refuse, dit Sartre, à nommer opinion une doctrine qui vise expressément des personnes particulières et qui tente à supprimer leurs droits ou à les exterminer. » Et dans les réflexions sur la question juive, il y a un moment très, très fragile où Sartre essaye la liberté républicaine. Et puis il découvre que le choix de l'antisémitisme n'est pas seulement individuel mais collectif. Il décrit la façon dont la personne juive prise dans ses raies de l'antisémitisme n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il est partout, c'est une sorte de piège. S'il veut s'assimiler, on lui refuse. S'il veut se singulariser, on lui refuse aussi. Et donc, il, dans ce bref moment, il dit qu'il faut agir sur les deux plans. Il faut agir sur les choix personnels, coupables, les institutions criminel. Et là, il y a un très fort équilibre. Mais malheureusement, cette découverte du social, ensuite, c'est comme s'il disait, il faut, en fait, d'ailleurs, c'est la fin du livre, il désespère un peu des institutions démocratiques et il dit, il faut changer, en fait, toute la société. Donc, au lieu de simplement instituer le refus de la violence, il faut changer l'humanité tout entière. Et je pense que c'est là qu'il bascule d'un extrême à l'autre. Et pour moi, vous me demandiez, il y a un bref entre-deux, juste après la guerre, où une porte s'ouvre qui va être saisie par Lévinas, qui d'ailleurs invite Sartre à faire une conférence sur l'antisémitisme, qui va être saisie par le deuxième Merleau-Ponty, qui est saisie tout de suite par Camus. C'est ce moment où ils peuvent discuter. Puis après, il y a ces ruptures. Et en effet, Sartre, c'est les amitiés rompues, mais comme il dit aussi, cette brouille qui n'a pas eu lieu, notre amitié, en parlant de Merleau-Ponty. Je pense qu'il y a ce bref intervalle qui, pour moi, est ce qui rend Sartre précieux, parce que, comme Aron, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'histoire ne se fait pas sans les subjectivités humaines, et que nous avons besoin aujourd'hui, dans ce moment du vivant, dans ce moment d'inquiétude, de retrouver la profondeur des consciences, mais sans courir le risque de la guerre.
Oui, alors, justement, est-ce que un certain Sartre est aussi précieux pour vous, Perrine Simon-Naoum?
Alors précieux, je ne dirais pas, je n'irai pas jusque-là, mais il y a effectivement ce moment dont parlait Frédéric Worms. Je crois que, en fait, Sartre, dans Réflexion sur la question juive, emprunte beaucoup sur l'antisémitisme à Merleau-Ponty, mais ça, et à la guerre a eu lieu, c'est un autre débat. C'est effectivement le Sartre critique littéraire, c'est-à-dire le Sartre de 1938, mais aussi le Sartre de ses premières grandes biographies, c'est-à-dire celle de Mallarmé, celle de Baudelaire, où il y a effectivement cette hésitation sur l'individu, et puis tout de suite, d'une certaine façon, la psychanalyse existentielle prend le pas, et le projet de Sartre qui est celui que voit très bien Aron, à savoir « je veux être le grand écrivain du XXe siècle ». Cela dit, je crois que ce livre, Histoire et dialectique de la violence, nous permet aussi de revoir toute l'histoire de la philosophie française des années 50-60. À savoir cette absence de dialogue supposé entre Sartre et Aron. Il y a un autre Sartre que j'affectionne particulièrement, c'est le Sartre des carnets de la drôle de guerre, édité de façon posthume en 83 par Arlette Elkaïm Sartre, mais qui constitue les carnets tenus par Sartre entre 1939 et 1942, le moment où il est en pleine discussion avec Aron. Et on voit très bien qu'en réalité, Sartre, même s'il ne le reconnaît pas, ne cessera de penser avec Aron. Et il me fait penser à quelqu'un d'autre, qui est Louis Althusser. Louis Althusser a été, on le sait, le grand théoricien du marxisme des années 60, quand l'ensemble de l'université était marxiste et Aron mis au banc des intellectuels. Il n'empêche que quand on regarde la bibliothèque d'Althusser, on se rend compte que celui qu'il a le plus annoté sur Marx, c'est Aron. Donc finalement, on voit que Aron mis au banc pour des raisons idéologiques n'a cessé d'être le grand penseur auquel tous les intellectuels idéologues des années 50-60 auxquels ils n'ont cessé de se référer, avec lesquels ils n'ont cessé de discuter, jusqu'à Claude Lefort et, je dirais, à vous-même Alain Finkielkraut, avec la résurrection de la question de l'antitotalitarisme à partir de la publication de L'archipel du goulag par Solzhenitsyn et des livres de Claude Lefort.
Oui, alors je terminerai en donnant mon expérience personnelle. J'ai commencé à lire Sartre assez jeune, et à un moment donné où Sartre n'occupait plus la place centrale hégémonique dans la vie intellectuelle qu'il occupait dans les années 50 et au début des années 60. C'était plus un surmoi, Sartre. C'était plus un père, c'était un grand-père. Les idoles, les maîtres à penser du moment, c'était déjà Foucault, Lacan, Deleuze, etc. Et donc, j'aimais Sartre aussi parce que les autres le délaissaient, et comme vous, j'ai admiré les cahiers et les carnets de la drôle de guerre et toutes les analyses phénoménologiques de Sartre, notamment les biographies, en effet, et le Saint-Genest, et aussi L'idiot de la famille. Je me suis réjoui de voir ce livre paraître en deux gros volumes que je lisais sur la plage. Et je m'enchantais des analyses phénoménologiques. Je suis un peu revenu de cette admiration parce que la position de surplomb de Sartre est exaspérante malgré tout. Flaubert devrait être traité à égalité avec Hegel, Kant ou Platon. C'est un penseur. Et or là, il va chercher uniquement la névrose. Mais il y a des descriptions phénoménologiques absolument admirables. Donc, on ne peut pas retirer ça à Sartre. Hein, vous êtes d'accord avec ça?
Mais Aron ne le fait pas.
Et Aron ne le fait pas. Et voilà, voilà aussi l'un des mérites de une générosité de Raymond Aron. En tout cas, je voudrais vous remercier tous les deux pour cette émission très éclairante. Alors, je rappelle, Perrine Simon-Naoum, que vous avez publié Aron, critique de Sartre, chez Kalman Lévy. Et je voudrais dire aussi, Frédéric Worms, que parmi vos livres, il y a La philosophie du XXe siècle en France, Moment, publié chez Gallimard dans la collection Folio Essais. Il y a évidemment question de nos deux grands philosophes. Et je voudrais citer également les mémoires de Raymond Aron dans la collection Bouquins. Voilà, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Riyad Kera, à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'accident » de Jean-Paul Kaufmann. Mon invité sera Jean-Paul Kaufmann. Dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.